Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de la dualité laïque. Et oui, mesdames et messieurs, au Québec, on est prêt avec un tas de dilemmes reliés au dualisme. Pensons à l'axe gauche-droite, à l'axe fédéraliste-indépendantiste, au Québec et au Canada, à la réalité linguistique francophone et anglophone, à la vieille rivalité canadien-nordique, ainsi qu'à la rivalité entre la ville de Québec et la ville de Montréal. La dualité laïque est inspirée d'un article qui s'intitule « La laïcité à la française, oui, mais laquelle? » C'est un article signé par Charlotte Plantive de l'agence France Presse à Paris et c'est publié dans le journal Le Devoir. Voici ce que nous dit cet article. « Deux visions de la laïcité, une intransigeante, l'autre rassembleuse, s'affrontent avec une vigueur renouvelée en France depuis les attentats de Paris. L'ambivalence du camp laïque vient des philosophes des Lumières, rappelle l'historienne Valentine Zuber. Ces penseurs considéraient l'appareil religieux comme oppressif et souhaitaient tenir le clergé catholique à distance. En même temps, ils voyaient que la religion peut avoir une utilité pour permettre un vivre ensemble, explique-t-elle. » Et donc, c'est là qu'on voit les deux pôles de cette dualité. L'intransigeance laïque ou cette autre façon de voir les choses, cette laïcité rassembleuse. Eh bien, une veut que l'appareil religieux soit soustrait de l'espace public parce qu'elle voit l'appareil religieux comme oppressif. D'un autre côté, on voit la religion comme étant utile, pouvant permettre un vivre ensemble. Et ce sont ces deux pôles-là qui sont confrontés dans les débats en France. Ce n'est pas seulement en France, mesdames et messieurs, qu'on est confronté à ces deux pôles. On le voit depuis plusieurs années ici au Québec. On l'a vu, par exemple, plus récemment, à l'été 2015 et à l'automne 2015, lors des élections fédérales qui ont lieu ici au Canada, eh bien, on a vu justement toute la question du voile. Est-ce que, par exemple, c'est permis de passer, par exemple, à une cérémonie de citoyenneté, le visage couvert? Est-ce qu'on peut travailler dans la fonction publique, le visage couvert? Est-ce qu'on peut aller voter, le visage couvert? Et ça faisait partie de nos débats, ça faisait partie des discussions. Et certains ont essayé d'aller chercher du capital politique là-dessus. Et ce n'est pas seulement une question politique, c'est une question justement philosophique. C'est une question qui touche fondamentalement nos libertés. Moi, j'ai toujours dit, mesdames et messieurs, dans ce débat-là, pour ce qui est de la liberté de conscience, la liberté d'expression et la liberté de religion, on doit faire attention pour ne pas les limiter, pour ne pas les restreindre, parce que c'est un cadeau extraordinaire d'être libre. Mais lorsque ça touche la sécurité, lorsque ça touche l'identité des gens, eh bien là, l'État a un droit d'intervenir. Et c'est là qu'on doit limiter certaines libertés pour le bien commun. Maintenant, dans une approche qui est rassembleuse, eh bien, il y a moyen, mesdames et messieurs, de gérer ça d'une manière respectable. Mais je poursuis avec l'article. On va y revenir. Il y a toujours eu des débats très forts entre les partisans d'une paix sociale avec la liberté pour les religions de s'exprimer dans l'espace public et ceux qui portaient une vision jusqu'au boutiste, anticléricale, désireuse d'un espace neutre, souligne Mme Zuber. C'est ça le dualisme. Mais savez-vous quoi? Il y a un homme extrêmement sage, un homme que je respecte énormément, un homme que je considère comme étant mon Dieu, Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Qui n'est pas contre nous est pour nous. » Et c'est pour ça que nous, on doit, en tant que gens de foi, chercher à tirer notre épingle du jeu dans cette société et voir que ceux qui ne sont pas contre nous sont nos meilleurs alliés. Dans l'espace public, on est appelé à tirer notre épingle du jeu. Dans le siècle présent, c'est ce que Saint Paul, c'est ce que l'apôtre Paul va dire à son disciple Timothée dans sa lettre au chapitre 2, les versets 9 à 14. C'est le lot du disciple de tirer son épingle du jeu dans la société. Et c'est pourquoi en 1905, les premiers l'emportent et arrachent une loi de compromis qui instaure la séparation de l'État et des Églises, tout en garantissant la liberté de conscience. Elle apaise le camp laïque. Et ça, mesdames et messieurs, c'est important parce que cette loi-là de 1905 en France faisait en sorte que l'Église n'avait plus un pouvoir direct sur l'État. Ce qui est bon. Mais ça ne veut pas dire que l'Église n'a pas un rôle à jouer dans la société civile. Ça ne veut pas dire qu'on doit exclure l'Église, qu'on doit exclure les groupes religieux de l'espace civil. Les Églises ou les groupes religieux ont le droit de s'exprimer. Et c'est pour ça qu'il y avait cette garantie dans cette loi qui était la liberté de conscience. Et ça, c'est important qu'on puisse garder ça. Si, par exemple, quelqu'un, par motif de conscience, veut se garder vierge avant le mariage ou se garder vierge jusqu'au mariage, eh bien, on ne doit pas lui mettre de la pression pour renoncer à cette valeur-là. Ça fait partie des droits individuels, ça fait partie de la liberté de conscience. Maintenant, ce qui arrive, le problème, et l'article poursuit ici en disant « Après-guerre, des immigrés, dont beaucoup de musulmans, affluent pour reconstruire la France où vivent aujourd'hui environ 5 millions de musulmans. » C'est ça qui fait peur aux Français, c'est ça qui fait peur au Québec. Vous allez dire « Oui, au Québec, bien sûr, parce qu'on en a parlé abondamment. » Mais je vais simplement vous rapporter des statistiques. Par exemple, si vous lisez le portrait religieux du Québec en quelques tableaux, qui est accessible sur le site cdpdj.qc.ca, cdpdj.qc.ca, et ce lien est accessible sur ericlantier.net, comme en tout temps. Eh bien, ce qu'on nous dit, c'est que il y a 1,5% de la population québécoise qui s'identifie à la confession musulmane. 1,5%. Vous allez dire, bon, ben, c'est pas si pire que ça. Mais attention, j'aimerais ça vous lire un extrait d'un article qui est publié par Guillaume Rousseau sur la plateforme Vigile.Québec. Il dit, « Il faudra bien se faire à l'idée. Depuis la fin des années 90, les musulmans sont plus nombreux au Québec que les juifs, ce qui fait ipso facto de l'islam la deuxième grande religion québécoise. Évidemment, en chiffres absolus, leur nombre n'est pas si impressionnant. On parle d'environ 110 000 fidèles recensés en 2001. Ce qui est impressionnant, par contre, c'est leur fulgurante ascension. En effet, leur taux de croissance au cours des années 90 a dépassé 140%. Aucun autre groupe religieux ne croit à un rythme comparable. » Et ça, c'est ça qui fait peur. C'est cette croissance-là qui est la croissance la plus fulgurante, la plus grande. Et c'est pour ça que Le Devoir va poursuivre en disant « La nouvelle visibilité de l'islam réveille les tensions. Les tenants d'une laïcité stricte arrachent en 2004 une loi interdisant les signes religieux ostentatoires, en parlant du voile, de la kippa, etc., à l'école, et en 2011, une autre bannissant le voile intégral dans l'espace public. » Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens, depuis quelques années, qui vont militer pour interdire le voile à l'université et à d'autres endroits, par exemple. Mais même si 81% des Français jugent la laïcité en danger, et c'est ce que nous rapporte Le Devoir, selon un sondage de l'Institut IFOP réalisé en novembre, l'Observatoire de la laïcité estime que la loi de 1905 suffit pour régler les conflits et qu'il est inutile de légiférer sur ces sujets. Et ça, je trouve ça intéressant que cette phrase-là, cette déclaration-là, fasse partie de cet article. Ça nous dit que la loi de 1905, qui justement, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sépare l'Église de l'État, mais qui garantit la liberté de conscience, elle est suffisante. Donc, c'est là qu'on voit que les laïcisants intransigeants ne sont pas pertinents. Ils ne sont pas pertinents. Ils sont, comment je pourrais vous dire ça, ils sont animés, mesdames et messieurs, d'une grogne contre tout ce qui est théiste, tout ce qui nous rappelle Dieu. Et c'est pourquoi les attentats djihadistes de 2015 ont donné un nouvel écho à ces revendications. Et ce qui est important de considérer, c'est que comment est-ce qu'on peut vivre, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Est-ce que justement la montée des musulmans qu'on retrouve au Québec et qu'on retrouve en France devient une menace pour les citoyens de bonne foi et les gens de foi qui veulent s'exprimer et qui veulent justement vivre leur liberté? Maintenant, comment on compose avec ça? Eh bien, de la même manière qu'il y a des groupes en France qui revendiquent les valeurs chrétiennes, pour limiter l'expression de l'islam, eh bien, ici au Québec, je crois qu'on n'a pas à limiter l'islam, mais on a tout simplement à mettre en valeur notre patrimoine. Ici au Québec, on doit protéger notre patrimoine parce que la laïcité intransigeante va s'assurer de bannir tout référent à Noël, à Pâques, à l'Action de grâce. Pourquoi? Parce que ça, c'est un tremplin pour des valeurs chrétiennes, religieuses, qui font appel au théiste, à l'existence de Dieu. Et donc, ceux qui pratiquent la religion de l'athéisme, les militants parmi ces groupes-là, parce que ce ne sont pas tous les athéistes qui sont militants, mais les militants, ceux qui sont intransigeants sur le plan de la laïcité, vont chercher à enlever le plus possible de nos libertés religieuses dans l'espace public. On a juste à le voir avec les funérailles de M. Angelil. Voici ce que nous rapporte Denise Bombardier dans un article qu'elle a publié aujourd'hui qui s'intitule « Le mépris des petites gens ». Et elle dit que le couple Angelil Dion incarne les valeurs traditionnelles du Québec. L'amour, le mariage, la fidélité, la famille, l'amitié. Toutes ces réalités malmenées dans la société postmoderne. Mais ce qu'elle va dénoncer, c'est ce qui suit. Et ça, c'est tellement révélateur de la société québécoise. Les artistes et les intellectuels qui ont tenu cette semaine des propos à la limite de l'indécence sur le couple et sur l'organisation des funérailles et qui ont affirmé avoir honte de ce Québec-là se sont avant tout révélés tels qu'en eux-mêmes, des gens qui ne supportent pas que le peuple impose son goût, ses choix esthétiques, musicaux, voire moraux, hors de leur influence. C'est ça qui est le problème, mesdames et messieurs, c'est que nous, les gens de foi et les citoyens de bonne foi, qui sont confortables avec le patrimoine québécois, confortables au fait qu'ici au Québec, on fête Noël, on fête Pâques, on fête l'Action de grâce, confortables avec le fait qu'il y a des crèches dans la période des fêtes, qui sont par exemple ça peut être devant des magasins, ça peut être devant un édifice municipal, ça peut être devant une maison, ça peut être dans un parc. On est confortable avec ça parce que ça fait partie de notre culture et de notre patrimoine. Maintenant, il y a des gens qui s'opposent à ça. Ce sont justement les laïcs intransigeants en disant « Non, parce que ça a une connotation et une référence religieuse. » Et ces gens-là, qui sont des laïcisants intransigeants, sont les plus vocaux, sont les plus intimidants. Et c'est pour ça que c'est important que les gens de foi et les citoyens de bonne foi s'expriment, militent, manifestent leur appui pour notre patrimoine. C'est vraiment important. Et elle va conclure cet article-là, disons, à la fin de cet article, elle va souligner quelque chose de vraiment intéressant sur le couple Dion-Angelil. Elle va dire « Le choix des funérailles, du chant sacré et des textes bibliques, choix personnel de René Angelil et de Céline, indique chez le couple un sens du sacré qui les honore. » Maintenant, je ne suis pas en train de dire là, que le couple Angelil-Dion sont des chrétiens évangéliques qui sont nés de nouveau, qui partagent notre foi à 100%. Je ne suis pas en train de les mettre en valeur à ce niveau-là. Je suis en train de dire que dans notre société, si on honore le sens du sacré, eh bien, on doit être respecté au même titre que ceux qui pratiquent une autre religion, celle de l'athéisme. Au Québec, premièrement, à cause de la liberté de conscience et également à cause de notre patrimoine, eh bien, ce qu'on mérite tout simplement, c'est le respect. Qu'on manifeste un désaccord, qu'on manifeste une opinion différente, ça a sa place. Mais que ça génère de l'intimidation, ça n'a pas sa place. Et c'est pourquoi j'admire des hommes et des femmes, des personnes publiques comme Mme Bombardier qui osent l'exprimer, qui osent mettre en valeur ces idées-là, qui osent le dire tout haut, qui osent l'écrire et le publier. Et je crois que c'est à nous, gens de foi et citoyens de bonne foi, de le faire également, lorsque des lignes ouvertes dans les réseaux sociaux, d'exprimer nos idées avec respect, avec clarté et de le faire avec conviction. C'est déjà le temps de clore cette émission. Si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite, mesdames et messieurs, à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net, leblogueur@commercialericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est en tout temps disponible sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Je vous dis donc à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur, à commercial, ericlantier.net. Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!